Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Vous le savez, les salariés de l'usine Bridgestone de Béthune dans le Pas-de-Calais sont sous le choc. Le fabricant de pneus japonais a annoncé ce mercredi la fermeture prochaine de son usine qui emploie 863 personnes. On est avec Frédéric, chauffeur routier qui habite dans la Somme.
Oui, bonjour Pascal.
Rebonjour et qui connaît effectivement... Vous connaissez peut-être bien cette usine ?
J'ai travaillé par le biais de la livraison pour Bridgestone. Donc j'ai eu l'occasion de livrer une bonne dizaine de fois ce client-là.
Et vous connaissez peut-être également des salariés qui sont dans cette usine ?
Non, je connais pas. J'ai pas d'affinité avec le personnel. On a affaire, quand on est livreur, on a affaire aux gardiens et aux caristes qui réceptionnent. Et puis on s'en va, on reste 5 minutes pour la livraison. Mais ça suffisait d'entendre que déjà, depuis quelques années, l'entreprise se portait pas très bien. Qui commençait déjà à se poser la question. Donc la situation qui arrive aujourd'hui, elle m'étonne pas trop.
Alors c'est des situations très particulières, évidemment, on parle toujours de la mondialisation, c'est vrai que dans ces cas-là, cette usine préfère aller ailleurs où le coût du pneu, j'imagine, est moins cher, où les charges salariales, sans doute, sont moins importantes, et ce qui fait qu'à l'arrivée, le pneu sera vendu moins cher, et c'est ça qui est absolument terrible.
Exactement.
Oui, Frédéric ?
Ce qui se passe, c'est que tout le monde est surpris de la nouvelle. Le salarié, le premier, est surpris de la nouvelle, la fermeture de l'usine à Bridgestone, mais les patrons sont au courant depuis des années, ils préparent le terrain. Donc c'est arrivé soudainement pour le personnel. Mais comme je disais au standard, si la situation arrive aujourd'hui, c'est pas forcément à cause de l'arrivée du vélo ou de l'inflation depuis le mois de mars, que tout le monde achète des vélos, que ça va faire chuter le pneumatique. C'est qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de concurrence avec le marché chinois, des pneus de moyenne gamme. Donc, on va faire quoi? On va partir en vacances, on va acheter des pneus de moyenne gamme, on va changer une à deux fois, mais on mettra pas un pneu Michelin, on mettra pas un pneu Bridgestone qui coûte plus cher. Donc là, c'est ça qui va faire chuter la marge, le marché.
Xavier Bertrand, qui est le président des Hauts-de-France, est parti au combat, je l'ai entendu ces dernières heures. Il soulignait notamment que Bridgestone est top partenaire des Jeux Olympiques. Donc c'est peut-être aussi un moyen de pression à mettre en place. Merci Frédéric, on est avec Françoise également qui voulait intervenir. Bonjour Françoise.
Bonjour Pascal.
Et merci.
Bonjour
d'être
à toute
nous.
L'équipe.
Merci.
Oui, j'entends mon président de région, puisque je suis de Saint-Quentin, donc c'était mon ancien maire et mon président de région qui fait beaucoup de choses. Il est vent debout. Alors, moi, je remettrais la faute sur plusieurs personnes. Déjà, nous, la collectivité, nous, les Français, qui aujourd'hui voulons des salaires à 6 000 euros, à 3 000 euros, et qui sont incapables de dire « on va acheter un article au juste prix ». Et on va acheter français. Parce que c'est ça aussi. On est coupables, nous les Français, d'aller chercher nos produits moins chers, toujours moins chers. Les sociétés ne sont pas philanthropes. Elles ne travaillent pas pour travailler à perte. Elles travaillent pour faire de l'argent. J'entends la CGT, j'entends la France Insoumise hurler sur la roue. Mais je n'ai jamais vu le préfond refuser ses dividendes pour payer la retraite des fonctionnaires. Il ne faut pas oublier que c'est une société de placement et qu'ils mettent leur argent. Que fait le préfond? Pourquoi il ne place pas son argent chez Bridgestone et il ne demande pas ça se trouve, ils ont de l'argent placé sur Bridgestone et ils refusent leurs dividendes. Parce que préfond touche d'énormes dividendes. Mais je ne les ai jamais vus refuser. Hein, parce que si vous ne versez pas la retraite des fonctionnaires, ils ne vont peut-être pas être contents. Il y a une faute aussi des commerciaux. On fait toujours des promos. Moi, ce que je voudrais acheter, c'est des produits français au juste prix. Arrêtez d'avoir des promos tous les 15 jours en payant 30% moins cher. Ça, c'est des fautes commerciales. Moi, la faute du gouvernement, je pense que la faute du gouvernement, c'est dans l'éducation de nos enfants. Dans l'éducation de nos enfants, peut-être des cours tout bêtes. Dire voilà.
Achetons français.
Eh ben, maman et papa travaillent dans une société française, ils gagnent un bon salaire. Acheter français parce que papa et maman travaillent et ne sont pas au chômage. Le français qui croit que d'acheter plus loin est moins cher, coûte moins cher, c'est pas vrai. Il a qu'à regarder sa TVA. Il a qu'à regarder.
Vous avez quoi comme téléviseur,
impôts.
Françoise?
Moi, alors là, je vais vous dire, c'est pas un... j'ai du mal à trouver un des téléviseurs fabriqués en France.
Oui, alors, c'est ce que j'allais vous dire. Et vous avez quoi comme voiture, alors?
Ah, ben moi, j'ai une Opel.
Ah, bon. Vous vous fichez de moi, alors, en fait.
Non.
Vous moquez de moi. Faut acheter français, je vous dis. Vous avez quoi comme voiture? Vous me dites, j'ai une Opel. François, vous vous fichez de moi. Alors, c'est pas gentil, parce que moi, j'étais venu gentiment vous écouter.
Non, mais. Alors, j'aurais pu prendre une Yaris, mais mon chien ne rentrait pas dedans. J'ai un chien de 100 kilos.
Mais non, mais vous dites. Les efforts, c'est toujours pour les autres, quoi. Les autres doivent acheter français, mais moi, j'achèterai jeu.
Attendez.
Vous le direz après la pub. Parce que la pub, elle est française. J'adore Françoise. Mais, en fait, je raconterai une histoire tout de suite après la pub.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Françoise va rester avec nous parce que Françoise est magnifique.
Ah oui, on veut en savoir plus.
Mais tout d'abord, Laurent Tessier que je salue. Laurent Tessier.
Attendez, Françoise. Oui. Les réactions sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Nos usines sont-elles en danger pour Guillaume? Nos entreprises sont surtaxées. Il ne faut pas s'étonner de voir des sociétés fermées. J'ai peur pour nos usines, rajoute José. Mon ancienne entreprise souffre en ce moment. Ce sont les salariés qui trinquent comme toujours. Christophe, lui, est catégorique. On paye toutes les décisions prises par nos dirigeants. Le plus dur de la crise arrive. Laurence lance un appel sur nos réseaux sociaux. Il faut remettre l'industrie française en route. Nous avons le savoir-faire. Il est temps de redevenir les numéros 1. Mais comment y arriver? Régis Thierry, le travail en France coûte trop cher. Les entreprises s'en vont. C'est plus rentable de produire ailleurs, malheureusement. Tout le monde veut acheter français, crie Yann. Tout le monde a de beaux discours. Mais la réalité, oui, est bien différente.
Forcément. Et on pense en tout cas à ces salariés, à ces 863 personnes et à leur famille, parce que dans la situation aujourd'hui, apprendre qu'on va être sans travail, c'est vécu comme une catastrophe. Françoise, donc vous disiez achetons français, je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez comme voiture? Vous me répondez, j'ai une Opel. Et j'ai dit, vous
alors,
vous fichez de moi.
Je finis, vous m'avez coincé sur l'Opel.
Bah oui.
J'ai 8 nœuds sur mon Opel, enfin j'ai 4 pneus.
Vous avez 8 nœuds sur votre voiture?
Non, j'ai 4 pneus sur ma voiture et 4 pneus de rechange de ma voiture, c'est des Bridgestone.
Je suis d'accord avec vous, mais les 4 nœuds, vous les mettez où? Parce que moi, j'ai 4 nœuds de secours.
J'ai les dans mon garage.
Ah bon, mais pourquoi vous avez 4 nœuds de secours? Enfin, ça ne m'enlève pas, mais c'est étrange.
Non, mais j'ai 4 pneus de secours parce qu'il y a 2 saisons et que mes pneus ne font pas de saison.
Ah bon? Donc, vous changez les pneus par saison?
Bah, si je suis en hiver, il me faut bien des pneus neige. Parce que quand je roule sous du verglas...
Dans l'Aisne, il y a du verglas et il y a des pneus. Ah oui. Bon, vous achetez français, c'est ça? Vous essayez d'acheter français le plus souvent possible.
Voilà. Et je vais vous dire une autre chose. Mon frigo est tombé en panne. J'ai refusé d'acheter Whirlpool. Parce que Whirlpool avait une usine dans l'Aisne, enfin, dans les Hauts-de-France, et a fermé. Ils ne veulent pas de nos salariés, ils n'auront pas mon fric.
Bon, et vous achetez quoi comme réfrigérateur alors? Quelle marque?
Eh bien, je vais acheter autre chose.
Oui, mais quelle marque?
Alors, évidemment, français, c'est pas évident. Fabriqué en France, c'est pas évident.
Bah oui, parce que quelles sont les marques de réfrigérateurs françaises?
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas?
J'ai pas trouvé.
Alors, écoutez, ça, franchement, je vais regarder, parce que moi, je...
Fabriqué en France, hein.
Oui.
Quand vous dites une voiture française, j'irai pas acheter une voiture Renault, elle n'est pas fabriquée en France. J'irai peut-être acheter une Yaris, mais mon chien ne tient pas dans la Yaris, il fait 100 kilos. Je suis désolé, mais mon chien, je l'emmène en vacances, il a besoin d'espace dans la voiture.
Alors Brandt, a priori, c'est de l'électroménager français, fort, FAURE, c'est de l'électro...
Oui, mais elle n'est pas fabriquée en France entièrement.
Ah oui, bon, mais a priori, Ford et Brandt, c'était réfrigérateur made in France. Il n'existe plus de réfrigérateur classique fabriqué en France. Vous voyez comme on apprend quand même des choses formidables
à la radio.
Ça n'existe plus, vous avez raison. Même les marques françaises comme Brandt et Rosière n'en proposent plus. La production a été délocalisée en Italie et en Europe de l'Est, comme en Hongrie par exemple, pour acheter de la qualité, il faut se tourner vers des marques allemandes, dit...
Voilà.
C'est terrible, hein ? C'est fou, hein ?
Alors,
et pourquoi il n'y en a plus ? Ça, c'est un bon sujet. Pourquoi il n'y a plus de réfrigérateurs fabriqués en France ?
Cher. Le problème, c'est qu'on veut acheter moins cher. Mmh. Moi, quand vous me dites que j'ai acheté mon Opel, mais j'étais dans un concessionnaire de Saint-Quentin, j'ai fait travailler du personnel de Saint-Quentin, j'ai fait travailler des salariés.
Est-ce que vous savez où sont fabriqués les réfrigérateurs vendus par des marques françaises ? Les marques Rosière et Brandt, elles font fabriquer leurs réfrigérateurs en Chine.
J'allais dire Roumanie ou Hongrie aussi, les assemblages.
Donc c'est terrible.
Le fait, c'est ça.
C'est terrible. C'est terrible. Alors dans l'Aisne, on n'a pas besoin toujours de réfrigérateur parce que l'hiver,
Fait froid.
Mais c'était pour
vous. Et puis là, il fait très très chaud maintenant, donc ça va. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Mm. Ma petite Delphine travaille chez Monoprix Saint-Quentin. Mm. Toutes les semaines, je vais peut-être pas chercher grand-chose. Mais je vais chez Monoprix. Pourquoi ? Parce que je sais qu'en achetant chez Monoprix, je fais le salaire de Monoprix.
Eh bien, bravo. Merci Françoise. On va laisser passer peut-être, non pas un autre auditeur, parce que tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Et Christophe dit un peu la même chose. Mais bonjour Christophe, vous avez 52 ans. Vous habitez Rouen, et moi je dis que cette émission est formidable pour ça, parce qu'on apprend des choses. C'est vrai que un électroménager aussi simple qu'un réfrigérateur, j'apprends moi-même qu'il est fabriqué en Chine.
Non mais ça, je le sais depuis longtemps. Il y a longtemps qu'il n'y a, hein, a plus rien de fabriqué en France. On ne peut pas acheter actuellement un électroménager, n'importe lequel, que ce soit petit ou gros, fabriqué en France. Il n'y a plus de fabrication en France. Du tout.
Alors, est-ce que ça coûte trop cher ? Est-ce qu'à ce moment-là, c'est de la faute de l'État qui met des charges patronales salariales trop importantes ? Parce que posons toutes les questions.
Arrêtez avec l'État, attendez, on a un pays qui travaille le moins en Europe, où la production est soi-disant très bonne, apparemment, mais je suis désolé, on travaille de moins en moins.
Parce que le coût du... qu'on travaille de moins en moins, c'est pas tout à fait le sujet, mais le coût du réfrigérateur est plus cher en France qu'il l'est en Chine. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Il n'y a pas de solution.
Il n'y a plus de solution, le problème il est là, il n'y a plus de solution. Et comme disait la dame juste avant, François, si je veux bien... vaut mieux rouler en Yaris qu'en Clio.
Pourquoi ?
Moi j'ai encore la. Parce que.
Et pourquoi ?
La Clio est fabriquée en Roumanie. Vous achetez une Yaris, elle est fabriquée à Valenciennes. Voilà. Alors après, il y a aussi une image de marque. On a un truc où on n'a rien compris en France. Mais alors, quand je vois ça, d'abord, ça m'énerve. Déjà, vous regardez le Tour de France. Les voitures, c'est les Skoda. Vous regardez la gendarmerie. La gendarmerie roule en Skoda. Là, on vient de passer un marché pour avoir les nouvelles voitures qui vont remplacer les Mégane RS.
Les appels d'offres, j'imagine, ils sont pour... tu peux pas faire un appel d'offres pour la France, je pense que c'est illégal. L'appel d'offres, il est sur l'Union européenne, j'imagine.
Non, attendez, expliquez-moi alors pourquoi les Allemands, la police allemande roule en Volkswagen.
Je peux pas vous répondre à cette question, parce que Volkswagen a dû gagner l'appel d'offres.
Je suis désolé, vous allez en Italie, la police, ça roule en Fiat. Voilà, en autre. Alors ça, déjà, c'est une image de marque. Je suis désolé. Attendez, l'image de marque, déjà, fait gens... Mais les gens, dans leur tête, ils pensent tout de suite... et si je vous dis, l'exemple flagrant...
Mais ça serait intéressant de savoir, est-ce que la police est soumise... Parfois, l'émission pose des questions en direct auxquelles je ne peux pas répondre. Mais c'est intéressant, ce que vous dites. C'est intéressant. Une petite pause encore. Je n'ai pas salué Greg Caradoni. Alors, ce soir, votre réfrigérateur, vous le balancez vers la fenêtre.
Mais non, mais ça va pas.
Bah si.
Je vis au quatrième étage, ça risque de faire des dégâts.
Et vous le descendez par l'escalier.
Venez m'aider alors.
Chez vous, je ne veux plus voir que de l'électroménager français. Ce qui fait que vous n'avez plus lavé vos fringues, vous n'avez plus les sécher, vous n'avez plus le grille-pain, vous n'avez plus rien faire. Plus le four.
Café, rien.
Rien. 13h18, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On est sur le dossier Bridgestone qui vous fait fortement réagir. C'est un coup de massue pour les syndicats. Le gouvernement appelle à la trahison, estime que la direction de Bridgestone a refusé tout dialogue, toute proposition. Plusieurs ministres appellent même l'entreprise à revoir sa copie. On a entendu Bruno Le Maire qui dit c'est absolument révoltant. Les syndicats sonnent la mobilisation générale pour convaincre Bridgestone de faire marche arrière. Et on en parle, nous en parlons. Allez, on va en parler avec peut-être Olivier, qui a un avis différent. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Olivier ?
Oui, oui, vous m'entendez ?
Oui, vous êtes là Olivier, il y a du bruit derrière vous. Qu'est-ce que vous faites ?
Eh ben, je descends de ma machine, je suis agriculteur.
Ah, qu'est-ce que vous étiez en train de faire ?
Charger une remorque.
D'accord.
Voilà.
Vous êtes dans l'Aisne également ?
Je suis dans l'Aisne également, oui. Donc, l'avis différent, pas forcément. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que tout le monde est vent debout devant Bridgestone. Je les cautionne pas, mais je comprends tout à fait leur position. La première faute, c'est à la population française qu'il faut l'acheter. Tout simplement parce que, comme c'était dit avant, on cherche toujours à acheter moins cher. Mais dans tous les domaines, pas forcément dans le pneu. On va acheter une chaise, on va regarder le prix, on va aller chercher une chaise qui vient de Tataouine-les-Bains, alors qu'elle a passé des heures sur des cargos à revenir. Et après, on fait un battage sur l'écologie. On va parler agriculture, c'est pareil. Vous, Pascal, vous allez chez Leclerc, vous allez regarder le kilo de tomates. Kilo de tomate espagnole, il a 1 euro. Kilo de tomate française, elle est à 2 euros. Vous allez acheter le kilo de tomate espagnole. Et on est tous comme ça. C'est naturel. On ne peut pas faire autrement.
Bah, d'abord, il y a beaucoup de gens qui, hélas, n'ont pas les moyens de faire autrement.
Oui, mais ils auront de moins en moins les moyens si on continue comme ça.
Bah, c'est vrai
C'est le chien qui se mord la queue.
Ouais, j'entends bien, mais... J'entends bien, mais c'est-à-dire que c'est toujours des discussions très très compliquées, parce que qu'est-ce qu'il faudrait faire alors, Olivier ?
Eh bien, tout simplement, c'est qu'il va falloir revenir à des systèmes où c'est contre la mondialisation, ce que je vais dire, mais un produit qui vient de l'étranger, va falloir le taxer. On n'aura pas d'autre solution.
Mais vous ne pouvez pas faire du protectionnisme. Vous pouvez avoir des taxes. Je crois qu'il y a une taxe carbone en Europe qui est peut-être mise en place, mais c'est quand même très compliqué.
Les Français veulent du social. Ils veulent tout. Ils veulent du social. Ils veulent les 35 heures. Ils veulent les congés payés, etc. À côté de ça, on a des coûts de main-d'œuvre qui sont horribles. Je vais vous donner un exemple. En l'an 2000, le coût de la main-d'œuvre. Je parle bien de la main-d'œuvre. En moyenne, je ne parle pas du SMIC. Le coût de la main-d'œuvre, il était de 24 euros de l'heure. En 2019, il est de 37.
C'est-à-dire qu'il aurait multiplié par plus d'un et demi en 20 ans.
Vous pouvez vérifier sur le site de l'INSEE.
Ouais.
Vous pouvez vérifier sur
non, mais que le coût du
le
travail soit plus cher. Mais oui, on a ces discussions-là. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les libéraux qui disent « bah oui ». Faudrait moins taxer les entreprises.
Il y a une solution. Alors, je dis pas que c'était la meilleure solution. Il y a une solution qui a été proposée au moment des élections présidentielles par un candidat que, entre parenthèses, les médias ont sabré. C'était une réduction des charges pour les entreprises en contrepartie d'une augmentation de la TVA. Je dis pas que c'est la meilleure solution. Attention, c'est pas ce que j'ai dit.
Qui est-ce qui proposait ça ?
Ben, Monsieur Fillon.
Ouais. Et vous trouvez que les médias l'ont sabré ?
Oh, ben, plus ou moins quand même. Hein. Je dis pas qu'il est sain, hein. C'est pas ce que je veux dire. Hein.
Moi, j'ai l'impression qu'il s'est sabré tout seul, si vous voulez.
Vous l'avez pas aidé à lever la tête.
Bah, il s'est pas aidé tout seul, hein, on peut en discuter pendant des heures, Olivier. Mais bon,
oui,
c'est pas le sujet.
Tout à fait, c'est pas le sujet. Mais le sujet, c'est justement de dire, voilà, est-ce qu'on est capable en France de décider la population française à acheter du produit en
Mais elle
France,
ne peut pas.
Du produit local.
Mais elle ne peut pas. On a cité tout à l'heure le réfrigérateur. Vous pouvez pas acheter un réfrigérateur fabriqué en France. Ça n'existe pas. Ils ne le sont pas.
Non.
Tout l'électroménager est fabriqué en Chine.
On est en Europe. Déjà qu'il y a des distorsions au niveau de l'Europe entre les coûts de main d'œuvre entre les pays de l'Est, les ex-pays de l'Est et puis nous.
Mais vous ne pouvez pas ce que vous dites. On ne peut pas le faire autrement. On n'a pas de réfrigérateur.
Et ben dans ce cas-là,
parfois on a le choix, on peut acheter une voiture française, ça c'est possible, mais on citait tout à l'heure l'électroménager, rien n'est fabriqué en France ?
Non, mais dans ce cas-là, faut que les gens se mettent en tête qu'il y aura de plus en plus de chômage en France. La personne qui travaille payera de plus en plus de charges et il y aura de plus en plus de personnes qui ne font rien.
Bon, on va faire une pause et ou alors c'est aussi le changement de société, en tout cas de pouvoir se reconvertir et faire autre chose que l'industrie. Puisque effectivement cette industrie a en difficulté pour des raisons financières. Alors on parle parfois de relocalisation, mais si
c'est
comme
un changement, c'est un changement de société. Je vais vous citer un autre exemple. Tout le monde veut des énergies propres. C'est simple. On veut installer une éolienne, personne n'en veut au pied de chez soi. On veut installer une unité de méthanisation, personne n'en veut au pied de chez soi. Pourtant, tout le monde veut l'énergie propre.
Bien sûr. Non, mais on a eu ces débats-là et puis on ferme des centrales nucléaires alors qu'on veut des voitures électriques. C'est tout à fait logique d'ailleurs, puisqu'on se demande comment elles vont être alimentées, mais à part ça, tout va bien. Il est 13h26, Greg Caradoni, je salue également toute l'équipe. Alors Pierre-Louis est là, Siradouche, Evan, la fine
Olivier,
équipe, Olivier, évidemment ce sont celles et ceux qui vous accueillent au standard. Je rappelle le duel du jour, faut-il avoir peur du progrès? On est en plein dedans. La 5G, les objets connectés, la voiture autonome, la télémédecine, la robotisation. Certains disent à quoi bon ? À quoi bon tous ces progrès ? Et le progrès, ça doit servir l'homme. Bon, a priori, ça a toujours servi l'homme. Mais si ça ne sert pas l'homme au bout du compte, on peut s'interroger sur le progrès. A tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
RTL Matin.
Bonjour, c'est Yves Calvi et c'est surtout la rentrée sur RTL avec plein de nouveautés pour vous informer, vous détendre et vous intéresser. Parmi les petits nouveaux, Cyril Lignac à 8h55 qui répond à toutes vos questions et vous livre ses recettes et des astuces. La pépite musicale d'Anthony Martin à 7h25. Alba Ventura, François Langlais sont eux aussi bien entendu de retour. Et puis un Laurent Gérard en très grande forme à 8h45 avec toute son équipe. On est ravis de vous retrouver dès 7h tous les matins. RTL, toujours avec vous.
RTL, Tour de France 2020.
Et à 13h30 tous les jours, Christophe Paco.
La route du Tour, formidable, vous avez adoré, j'imagine quand même l'étape d'hier.
Ce que je trouve tout à fait étonnant, c'est que celui qui est maillot jaune est dans un pays où il y a 1200 licenciés slovènes en cyclisme.
Oui, après il vient du saut à ski à la base, hein, et il a été conseillé par son frère.
Enfin, tous les gens qui venaient du saut à ski étaient leaders du Tour de France,
non,
ça serait...
Après tu prends une... Voilà, on prend une...
Je suis quand même étonné que nous, on n'est pas...
Nous, on est... Il y a des périodes comme ça.
Je suis d'accord avec vous, mais il y a 1200 personnes simplement qui font du cyclisme en Slovénie, ils sont premier et deuxième.
C'est un petit pays, monsieur Pro.
Bah oui, mais je trouve ça justement formidable.
Après,
nous, on n'a pas gagné un Tour de France depuis Bernard Hinault.
Oui, ça remonte, hein. 1985, effectivement. Mais on n'était pas loin, peut-être cette année. Qui sait, l'année prochaine.
C'est comme ça.
C'est
comme Yannick Noah, quoi. Je pense qu'on mourra tous, qu'on n'aura pas gagné ni le Tour de France.
Non, Pascal Praud. Non, on va y arriver, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que c'est. Bon, cette année, ce sont deux Slovènes qui sont en tête du classement général, avec pour l'instant cette avance qui va bien. À Primoz Roglič, qui est dans son peloton tout tranquille aujourd'hui, avec ses 57 de secondes d'avance sur son jeune et talentueux compatriote, donc Tadej Pogacar, et le vainqueur d'hier, Miguel Angel Lopez, et lui a une 26, donc pour l'instant échappé depuis le début, s'attaque de toutes parts depuis le début, et nous sommes dans la montée, dans l'ascension d'un endroit mais juste magnifique. Je m'y arrête un instant, la carte postale s'appelle le Cormet de Roseland. Cette affaire un jour dans votre vie, à moins de 2000 mètres d'altitude, juste à peine, c'est juste somptueux. Ils sont en train d'attaquer ce Cormet de Roseland, les échappés du jour, avec de bons grimpeurs à l'intérieur, comme Carapaz qui est dedans, ce groupe évidemment. On va les suivre, on est à 9 km du premier sommet des 5 difficultés du jour. Le peloton est à 1 minute 27 des fuyards.
C'est votre quantième Tour de France, cher Christophe.
Premier Tour de France 1988, monsieur Pro.
Donc ça fait 32 ans. Et voilà, là, évidemment, vous changez d'hôtel tous les soirs.
Ah ben heureusement, on porte notre petite valise.
Donc vous êtes parti avec du linge pour 22 jours consécutifs.
Mais nous avons des combines.
Des combines, oui. Oui,
on arrive à le faire laver quand même de temps en temps quand on s'arrête un jour ou deux quelque part, oui.
Non mais c'est formidable, je trouve que c'est une vraie organisation.
Il faut calculer ces t-shirts RTL.
J'ai demandé à Raphaël Vantard de venir lundi nous dire bonjour. Vous viendrez également ? Avec Nicolas Georgiou, si vous êtes là dans le studio, moi j'aime bien, venez nous dire bonjour.
On va vous laisser le petit, parce que l'avantage avec RTL, c'est que le service des sports et Christian Olivier, à chaque fois, décide la rédaction d'RTL d'envoyer un néophyte, quoi, sur le tour, un maillot blanc, quoi. Et c'est bien d'avoir sa vision à lui.
Et vous avez fait tous les Tours de France depuis 88.
J'en ai loupé quelques-uns après 98, époque Indurain, où ça commence à devenir un peu barbant après l'affaire Festina. Si vous voyez ce que je veux dire.
Et c'est formidable. Merci, cher Christophe. 13h32.
Avec plaisir, Pascal.
Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et ils ont la parole avec Laurent Tessier.
Un nouveau sujet, un rapport recommande d'étendre l'accès à l'IVG jusqu'à 14 semaines de grossesse. Aujourd'hui, c'est 12 semaines. Une proposition saluée par Aurélie sur nos réseaux sociaux. Ces 14 semaines sont importantes. Il ne faut surtout pas juger. Le choix appartient à chaque femme. Rappelle Eric, hein, il faut tout faire pour les aider à surmonter cette épreuve. Sophie a un avis différent sur la page Facebook. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités et assument les conséquences de leurs actes. Réponse de Thierry, on doit respecter la vie des femmes et s'en remettre aux vrais professionnels qui accompagnent cette douloureuse démarche.
Alors je rappelle, parce que c'est un sujet grave et Christelle Rebière en a consacré les premières minutes du 12h30, un rapport recommande d'étendre l'accès à l'IVG jusqu'à 14 semaines de grossesse. Aujourd'hui, c'est 12 semaines. Est-ce que vous soutenez cette proposition ? Elle est faite pour éviter que l'accès à l'IVG ne soit pas un parcours du combattant. La délégation aux droits des femmes à l'Assemblée recommande donc ce rapport. Il y aurait entre 3000 et 5000 patientes qui seraient contraintes chaque année de se rendre à l'étranger, notamment en Espagne et aux Pays-Bas, afin d'avorter une fois les 12 semaines écoulées. Bonjour Mélanie.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous.
Merci à vous de m'écouter.
Je vous en prie. Quel est votre avis ?
Alors, moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce qu'effectivement, l'avortement, c'est un parcours du combattant. Selon qu'on soit mineur ou majeur, selon qu'on habite en centre-ville ou dans la campagne, on n'a pas accès à l'avortement de la même manière et pas de manière égalitaire, surtout.
C'est une expérience peut-être que vous avez vécue ?
C'est une expérience que j'ai vécue, bien que j'habite à Paris. Mmh. Donc, comme quoi, bon, ça peut arriver partout. Moi, ça m'est arrivé quand j'avais 17 ans et j'ai été dans un hôpital dont je tairai le nom, qui dispose d'un centre IVG et qui m'a fait passer une échographie, etc., qui s'est très mal passée de manière assez violente. Et ensuite, je n'ai jamais eu les résultats. J'ai essayé de les joindre sans relâche pendant des jours, et en fait, ils ne répondent pas.
Mais alors, pardonnez-moi, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'une échographie qui se passe mal, comment une échographie peut-elle mal se passer ?
Déjà parce que quand c'est très récent, ce n'est pas une échographie comme on voit à la télé sur le ventre, mais c'est une échographie intravaginale.
D'accord.
Et qui a été réalisée par une interne qui était adorable, mais sa responsable lui a dit qu'elle n'allait pas assez fort, assez profond, etc. Je vous passe les détails.
D'accord.
Mais bon, c'est pas très agréable.
Bon, et à l'arrivée, vous avez quand même pu réussir à avorter à 17 ans.
Alors, pas avec cet hôpital, du coup. Mmh. Tout simplement parce que mes parents l'ont découvert, entre guillemets, et ils m'ont aidé et ils m'ont soutenu et ils m'ont surtout aidé à trouver une clinique qui a accepté de le faire. Et qui était une
Ce que je ne comprends pas, c'est que les hôpitaux ne sont pas, d'une certaine manière, lorsqu'une femme arrive et souhaite avorter, l'hôpital ou un médecin peut dire non ?
Alors, ils ne le disent pas. Enfin, dans mon cas, hein, je ne parle pas pour tous les hôpitaux de France. Dans mon cas, ils ne vous disent pas non, ils ne vous répondent pas.
Ouais.
Pourtant, ils disposent d'un centre anti-IVG, mais pour faire des IVG, il y a un numéro qui est dédié. Pour autant, ils vous répondent pas. Donc, et après, j'ai appris que cet hôpital, en fait, ne le pratiquait pas vraiment.
Je comprends. Enfin, de 12 à 14 semaines, vous trouvez que c'est une bonne chose ?
Ben, je trouve que c'est une bonne chose parce que du coup, quand un hôpital ou un médecin vous le refuse et ne vous redirige pas forcément vers un praticien qui accepte de le faire, un médecin a le droit de refuser, mais il a aussi le devoir de vous rediriger vers un praticien qui accepte de le faire. Et quand il ne le fait pas, après, c'est à vous de trouver. Et il y a des délais, vous prenez rendez-vous, vous n'avez pas rendez-vous dans la journée, etc. Et ben, le délai est vite passé, surtout qu'en général, vous apprenez que vous êtes enceinte, pas le premier jour. Donc, il y a déjà quelques semaines qui se sont passées. Donc, en fait, 2 semaines de plus, franchement, c'est nécessaire. Et surtout quand vous êtes mineur, vous avez obligatoirement 7 jours à respecter de délai pour réfléchir.
Bah merci Mélanie de ce témoignage éclairant. On va poursuivre la discussion. On va être avec Nicole dans une seconde qui habite dans la Drôme.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et je vous rappelle que nous évoquons ce rapport qui recommande d'étendre l'accès à l'IVG jusqu'à 14 semaines de grossesse. Les co-rapporteurs Marie-Noëlle Battistel, PS, et Cécile Muchotti de La République En Marche, ainsi que la présidente de la délégation, Marie-Pierre Rixin, ont plaidé pour un allongement des délais afin de garantir une vraie liberté de choix et préserver la santé des femmes qui recourent à l'IVG. Et l'avortement, l'IVG en France, date de 1975. Ça fait 45 ans. C'était évidemment la loi Veil. Nicole, bonjour.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous.
Oui, je vous remercie de m'écouter. Mais moi, je suis quand même scandalisée parce qu'à l'heure actuelle, écoutez, je trouve qu'il y a beaucoup de moyens de contraception. En tous les cas, à mon époque, il y avait le diaphragme, il y avait le stérilet, il y avait des préservatifs, il y en a toujours. Donc, si on ne veut vraiment pas d'enfants, ma mère ne voulait pas d'enfants, mais malheureusement, hein, en 1950, il n'y avait pas de moyens de contraception. Mais maintenant, moi j'ai l'impression que chacun fait un peu comme il veut. Je ne parle pas des accidents de la vie, hein, parce qu'il peut y avoir des accidents de la vie, mais que ce soit 12 ou 14 semaines, on a le temps d'y réfléchir quand même. Et ça, c'est le domaine des gynécologues, des chirurgiens qui doivent décider. Mais est-ce que c'est remboursé? Je crois que c'est remboursé par la sécurité sociale. Et ça, ça me gêne énormément.
Mais pourquoi?
Ça me gêne énormément parce que la sécurité sociale, elle est faite pour soigner les gens. Elle n'est pas faite pour le retirer un enfant, il me semble. Enfin, c'est dans mon état d'esprit, je vais vous dire, j'ai peut-être l'état d'esprit tordu, mais je parle des moyens de contraception, bon sang. Moi, dernièrement, j'ai vu une émission à la télé, toutes ces jeunes filles qui vont au lycée et qui tombent enceintes à 14 ans. Ben écoutez, moi j'en ai rarement vu à mon époque.
C'est pas très fréquent.
Mais
il faut les aider. Mais Nicole, il faut les aider. Dans ces cas-là, il faut les aider.
Aider tout le monde, mon pauvre, mais on va pas y arriver pour aider tout le monde.
Faut pas aider tout le monde, il faut pas aider tout le monde, mais une jeune fille qui tombe enceinte à 14 ans, faut d'abord l'aider. C'est ça la vérité.
Écoutez, là, elle mérite l'IVG carrément.
Mais le mot mériter, vous vous rendez compte?
Elle garde le bébé parce que la mère, elle est aussi bête que la fille en général. Oh, il est beau le petit. Bah oui, toute la société va l'élever naturellement qu'il est beau. Bien sûr que c'est beau un bébé.
Nicole, soyons un peu de bienveillance.
Un peu de compassion.
Un peu de bienveillance, Nicole.
Un peu de gentillesse, ah oui. Un peu d'amour, un peu de...
Qu'est-ce que ça vous enlève à vous qu'on passe de 12 à 14 semaines? Qu'est-ce que ça changera à votre vie?
Ça va pas changer le cours de ma vie, mais si j'étais enceinte à 14 ans, j'aime autant vous dire que ma mère, elle m'aurait tordu le cou.
Mais ça aurait pas, mais ça aurait pas été une solution non plus.
Je risque pas de commettre l'impair, hein. À l'époque, on commettait pas l'impair parce qu'on recevait des claques, hein. J'aime autant vous dire.
Oui, mais ça crée des traumatismes et quelques névroses.
Il y a un laxisme. Alors, il y a des préservatifs de partout, bon sang divine.
Eh ben, parfois, il peut exister, mais qu'est-ce que...
Il peut y avoir un accident.
Mais il y a un accident, et puis parfois...
Je parle pas des accidents, ça c'est autre chose, mais bon, il y a beaucoup...
C'est la liberté de chacun, je vous dis, ça vous enlève rien, vous.
La liberté, c'est pas un cadeau, hein, finalement, bon, il va falloir resserrer les vis. Resserrer les vis à tout le monde, hein, parce que là, c'est la déchéance, hein. La liberté, c'est la déchéance, finalement.
Nicole, c'est évidemment... Oh, pas un plaisir.
Comme une pendule en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez,
Nicole?
Vous écoutez, les usines ferment les unes après les autres. Ouais, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que ça va mal. Ça va de mal en pis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Vous savez, depuis le dernier des Valois, ça va pas, disait Michel Audiard, depuis le dernier des Valois, depuis Henri III, ça va de mal en pis. Mais un peu de bienveillance, Nicole, un peu de bienveillance. Alors, Sarah est là. Sarah, qui est plus jeune que Nicole, parce qu'elle nous faisait un amalgame, Nicole. Sarah, bonjour.
Bonjour, Pascal.
Alors, est-ce que vous pensez d'abord sur la première question de 12 à 14 semaines, que ce soit une bonne chose de prolonger?
Alors, je trouve que c'est une très bonne chose, puisque en France, avant d'avoir un délai chez un médecin, et avant de se rendre compte, puisque moi, comme la dame le dit, c'était un accident. Et en plus, Le problème, c'est que j'avais eu mes règles. Et le mois d'après. Et donc, du coup, je me suis vraiment retrouvée dans une. Où les délais étaient très courts. Et
bien sûr.
Il fallait prendre rendez-vous, il fallait avoir les 7 jours de. Voilà. Donc, je n'ai pas pu avoir l'avortement par voie médicamenteuse. Et du coup, j'ai été obligée de le faire par aspiration. Et il faut savoir que j'étais accueillie pourtant dans un hôpital public et qui était... Bon, alors je vous parle de ça, j'ai 48 ans, je devais en avoir 24 à l'époque. Et il faut savoir que j'ai été prise en compte dans cet hôpital pour cet avortement comme si on me punissait.
J'entends bien.
On me punissait. Puis
mais c'était il y a 24 ans. C'était peut-être le rapport était différent. Oui. Là aussi, il y avait une forme de culpabilisation qu'on faisait peser sur les femmes, j'imagine. Hein, les gens que vous avez, qui vous ont accueillis. Bon, ça existe peut-être parfois toujours. Les gens qui ont un peu de pouvoir, parfois, ça les amuse. Si j'ose dire, ils jouissent de cette culpabilité qu'ils transmettent à l'autre pour lui dire tu t'es fait, tu pouvais pas prendre tes précautions. C'est pas ce qu'on demande à un médecin, évidemment. Mais c'est la nature humaine. Il y a certains petites personnes qui agissent comme ça.
Et c'était pire que ça, puisque je hurlais de douleur et je les entendais à côté de moi parler de leurs vacances. Et en fait, on m'a semblé sur la table. Et je les entendais et je hurlais, je me contorsionnais de douleur puisque l'anesthésie ne faisait pas effet. Et on me disait... réfléchir.
Oui, mais c'est nul. Qu'est-ce que vous voulez faire, Sarah? C'est hélas, j'imagine que votre témoignage, tout le monde n'a pas vécu la même, je l'espère en tout cas, mais c'est horrible. La nature humaine est parfois horrible. 13h47, on marque une pause. Mais c'est horrible, effectivement. On est tous confrontés parfois à des gens qui tout simplement ne sont pas gentils. Et c'est tellement agréable quand on rencontre quelqu'un de gentil, de bienveillant, d'agréable, qui nous accompagne et ça. Alors moi j'ai quand même le sentiment qu'il y a plus de gens gentils que des gens pas gentils, forcément. Mais quand on a la malchance de tomber sur un professeur, quand on a été enfant, ou sur un éducateur, ou que sais-je, qui a un pouvoir sur nous et qui l'exerce de manière ou perverse ou méchante, c'est un mauvais moment à passer. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Vous savez que le duel du jour sera « Faut-il avoir peur du progrès ?» C'est presque une question pour élèves de terminale, de philo. La 5G, les objets connectés, la voiture autonome, la télémédecine, la robotisation... Ok, d'accord, tout ça, mais il faut que ça serve l'homme. Si le progrès ne sert pas l'homme, à quoi bon le progrès? Et ce débat, on l'aura avec Laure de la Rodière, qui est députée à Gérer la droite constructive de Réloir, et puis on l'aura avec Gilles Verdès, qui vient d'entrer dans ce studio. Vous êtes arrivé en carriole, cher Gilles? Est-ce que vous êtes à Miche?
En métro.
Et est-ce que vous êtes Amish?
Non, les Amish ne prennent pas le métro.
D'accord, les Amish, donc vous êtes quand même pour la modernité?
Pas du tout.
Ah, pas du tout, vous
le
êtes
métro,
contre
c'est
la
pas moderne.
Ah bon, bah, le métropolitain?
Absolument.
Bon, vous nous expliquerez évidemment.
Avec plaisir.
Tout ça tout à l'heure. On était donc avec Sarah qui nous racontait combien son avortement s'était mal passé, combien elle avait été mal reçue par des gens qui l'ont très mal accompagnée. Marie-Claude, bonjour Marie-Claude.
Oui, bonjour Pascal. Alors écoutez, c'est un sujet qui est tellement grave et puis qui revient, disons, fréquemment. Alors moi, je suis enfin pas tout à fait d'accord pour qu'on rallonge ce délai. Par contre, j'applaudis des deux mains la loi Veil qui a permis aux femmes donc d'avoir une certaine liberté sexuelle. Et enfin, moi, je suis une infirmière à la retraite et moi, je peux dire que j'ai gardé en image tous ces avortements clandestins et qui était quelque chose d'épouvantable quand vous avez 20 ans, que vous voyez ça en tant qu'infirmière. Et tout ce que ça pouvait représenter, les infections, les embolies gazeuses, et j'en passe. Et ces femmes faisaient ça souvent pendant le week-end pour pouvoir reprendre leur travail le lundi. Alors, il est vrai que ce qui m'étonne quand même, c'est que maintenant, il y a tellement de moyens de contraception, divers et variés, et je voudrais savoir le nombre d'avortements qui sont encore pratiqués de nos jours.
Ah ben ça, ça doit se trouver très facilement, ça j'imagine, ça je peux vous trouver ça dans la seconde. Mais vous savez, tout le monde n'a pas envie de prendre la pilule, hein. Il y a des jeunes femmes d'abord qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas. Bon, et puis pareil pour le préservatif, tout le monde...
Pas là du tout, mais je pense qu'il y a quand même à la base une éducation sexuelle et des informations qui pourraient quand même aider toutes ces jeunes femmes qui malheureusement se retrouvent dans ces situations dramatiques.
Alors le nombre moyen d'IVG par femme est estimé en France entre 215 et 230 000, vous voyez. Par exemple, et j'ai tous les chiffres, en 1976, il y en avait 134 000. En 86, il y en avait 166 000. Donc, il est, voilà, en 2014, nombre d'IVG, on est au-delà de 200 000. Alors, c'est un petit 200 000, ça tourne autour de 200 000 personnes.
Alors, est-ce que, la question que je me pose, est-ce que maintenant, justement, ce chiffre devrait être, disons, plus bas, compte tenu de tout ce qui a été fait.
J'entends bien, mais ça veut dire, alors, moi, ce qu'il faudrait savoir d'ailleurs, c'est comment est-ce que ces jeunes femmes, alors il y a peut-être des IVG parce que des gens qui ont voulu être enceintes et puis après elles ont peut-être changé d'avis. Il y a peut-être effectivement des erreurs comment dire, des jeunes femmes qui ne prennent pas la pilule et puis qui ont peut-être mal calculé, que sais-je, et puis des gens qui se sont fait surprendre, et puis si j'ose dire, donc voilà, 200 000, ça me paraît pas un chiffre énorme pour tout vous dire.
Mais Pascal, ça, quand même, quelque part, il faut aussi se dire que l'IVG, ce n'est pas un acte anodin.
Mais personne ne dit ça, mais qu'est-ce que vous voulez dire au fond?
Je le dis parce qu'il y a quand même ce risque d'anesthésie et beaucoup de choses.
Oui.
Et moi, j'avoue qu'en tant qu'infirmière, malheureusement, j'ai vu des personnes qui avaient eu recours plusieurs fois.
Mais on connaît tous des jeunes femmes, effectivement. Mais alors, je vous dis, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas envie de prendre la pilule, c'est leur choix. Et qui font un peu attention précisément, et puis parfois elles le font moins, et donc elles peuvent tomber enceintes.
On n'est plus à la méthode Ogino, que je sache.
Elle peut exister. Moi, j'ai rencontré des témoignages, il y a beaucoup de femmes qui ne prennent pas la pilule, qui n'ont pas envie de prendre la pilule. Bon, merci en tout cas, Marie-Claude, de ce témoignage. Et c'était intéressant. Laurent Tessier, là, il va nous présenter le duel du jour. Faut-il avoir peur du progrès?
Une belle question hein, pour le bac de philosophie. Le débat a été relancé avec la 5G, on en a parlé cette semaine dans l'émission. Technologie indispensable, c'est le futur, essentiel, vital pour nos entreprises, disent certains, dangereuse pour l'environnement et la santé pour d'autres. Emmanuel Macron, rappelez-vous, a donné le coup d'envoi.
La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish.
Les Amish de mes Amish sont mes Amish.
Et à chaque président, ces éléments de langage, en 2011, Nicolas Sarkozy défendait le nucléaire.
Il n'est pas le temps de revenir à l'époque du Moyen-Âge, des peurs moyenâgeuses. Où on se méfiait du progrès, on ne va pas retourner à l'époque de la bougie.
La télémédecine, les objets connectés, l'omniprésence des écrans, l'intelligence artificielle, le compteur Linky, la robotisation de la société, tout est-il bon à mettre à la poubelle? À quoi ressemblera, tiens, la voiture de demain, la voiture autonome?
On peut imaginer finalement, le véhicule va freiner en cas d'urgence toute seule, ça existe aujourd'hui. On peut imaginer demain avoir une voiture connectée dans laquelle on pourra travailler, se divertir, dans laquelle on pourra finalement faire tout ce qu'on fait à la maison, on le fera dans un véhicule.
Nom de Zeus !
Mais pour certains d'entre vous, la technologie, le numérique, non, vous ne voulez pas en entendre parler. Souvenez-vous de Michel Sardou, invité de nos amis de Laissez-vous tenter.
Je hais cette époque. Je hais ce siècle. Maintenant, tout est des réseaux sociaux ridicules, où des gens s'expriment, quelquefois bien, mais très souvent, c'est des abrutis. Le téléphone portable, je hais ça. Les réseaux sociaux, n'en parlons pas.
Je déteste ça.
Merde, ça va.
Alors on peut s'interroger ce midi, le monde de demain vous inquiète-t-il ? Faut-il s'adapter aux évolutions, aux progrès, refuser tout changement et devenir Amish, le terme désormais le plus célèbre de France? Avec nous en studio, Laure de la Rodière, député Agir, la droite constructive d'Eure-et-Loire, et le journaliste Gilles Verdez.
À 13h56, on va marquer une pause. Madame de la Rodière va pouvoir entrer également. Gilles Verdez, bien sûr, que vous connaissez, qui est toujours dans la nuance.
Absolument.
Cher Gilles, je vous entends également chez l'ami Christian Olivier.
Toujours dans la nuance.
On refait le match.
Absolument, avec plaisir.
Le samedi, entre 18h30 et 20h. A tout de suite, Aude Vernuccio va nous rappeler les titres.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est quasiment 14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Le flash avec Aude Vernuccio.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Doit-on s'attendre à de nouvelles restrictions en raison de la Covid-19? Point de situation à 17h d'Olivier Véran. Le ministre de la Santé reprend ses interventions hebdomadaires. Plus de 9800 cas ces dernières 24 heures. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète du niveau de transmission alarmant en Europe. Contre les suppressions d'emplois et pour la hausse des salaires, CGT, FSU, Solidaires appellent à une journée de mobilisation nationale. Manifestation à Bayonne, Nantes, Toulouse, Marseille. À Paris, le cortège doit s'élancer dans les prochaines minutes de la place de la République pour rejoindre la place de la Nation. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, promet de se battre contre une décision révoltante. Déclaration après l'annonce de Bridgestone qui veut supprimer le site de Béthune. 863 salariés pourraient perdre leur travail. Et puis le Tour de France.
RTL, Tour de France 2020.
La 18e étape avec 175 km entre Méribel et La Roche-sur-Foron. Et dernière journée dans les Alpes, Christophe Paco.
Oui, avec 5 difficultés. La première d'entre elles, c'était ce cornet de Roseland dont je vous parlais tout à l'heure, sublissime cornet de Roseland. Deux hommes forts de ce Tour de France 2020 viennent de passer en tête. Carapaz et Hirschi, vainqueur d'étape, Marc Hirschi, le Suisse. Il y a un petit groupe juste derrière avec trois Français, Nance Peters, Nicolas Hédé et Rudy Mollard, qui fête aujourd'hui son 31e anniversaire. Et le peloton est à 3 minutes en ce début de course.
Merci à vous, Christophe Paco. Un mot de la météo avec du soleil sur la majeure partie du pays aujourd'hui. À noter un simple risque d'averse orageuse parfois sur les Alpes en fin de journée. Côté température, comptez de 20 à 36 degrés cet après-midi.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Le duel des auditeurs ont la parole.
C'est au fond un sujet de philo que je vous propose aujourd'hui. Faut-il avoir peur du progrès? C'est vrai que depuis quelques jours, on a parlé de la 5G, des objets connectés, de la voiture autonome, la télémédecine, la robotisation. Est-ce que le monde de demain vous inquiète? Est-ce qu'il faut vivre avec son époque? Est-ce qu'il faut se mettre à jour? Ou au contraire, est-ce qu'il faut refuser tout changement? C'est la question qu'on va se poser jusqu'à 14h30. Alors, Gilles Verdez, je ne vous présente pas, chacun vous connaît. En revanche, Laure de la Rodière, vous êtes députée Agir, la droite constructive.
Bonjour.
C'est quoi la droite Agir, la droite constructive?
C'est des élus de droite qui, en 2017, ont quitté les Républicains au moment de la nomination ou juste après d'Édouard Philippe, ancien Les Républicains, la nomination à Matignon comme Premier ministre, pour dire que finalement, ils allaient s'inscrire dans un soutien au gouvernement de façon assez libre, assez indépendant, mais qui refusait d'être dans l'opposition systématique alors que le gouvernement portait des réformes
et
que nous portions avant.
Vous êtes combien dans ce groupe?
Aujourd'hui, nous sommes un groupe parlementaire avec 17 députés. Mmh. 10 sont du parti Agir et 7 sont des gens qui sont issus de différents horizons mais qui ont rejoint cette démarche.
Bon. Gilles Verdez, vous êtes contre le progrès?
Je suis contre ce progrès-là, parce que c'est un pseudo-progrès. Ce progrès technologique qu'on veut nous infliger, c'est un progrès qui laisse le peuple dans le fossé, à l'écart. Je vais vous prendre un exemple de vie quotidienne très concret, madame. Le compteur Linky, qui terrorise les gens. Moi, j'avais un compteur qui marchait très bien. Et puis, on m'a envoyé des lettres et des lettres et des sommations. Monsieur Verdez, remplacez votre compteur. Je dis, mais je ne veux pas. Si, parce qu'on ne contrôlera plus. Et quand on contrôlera, vous devrez payer. Et si vous ne mettez pas le Linky maintenant, quand nous viendrons plus tard, vous devrez payer. À un moment assailli financièrement, j'ai cédé. Et madame, aujourd'hui, ce progrès-là fait que j'ai un espion à la maison. Je l'ai cloisonné dans une boîte comme ça. J'ai Linky qui m'espionne tous les jours à la maison. Ce progrès-là, je n'en veux pas.
Mais pourquoi il vous espionne?
Mais il s'est
mais
bien
pour, connu.
Mais pourquoi il vous espionne ?
Il diffuse des ondes, donc il faut surtout mettre un boîtier autour. Moi, et puis c'est un œil connecté chez moi. Vous l'avez, Linky, madame ?
J'ai pas encore Linky, malheureusement,
vous avez...
chez moi.
Ah, ben
mais,
voilà.
Mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que je dépends d'une régie d'électrique qui n'est pas EDF. Et donc, ils sont en retard dans le déploiement du compteur Linky. Mais je vais vous dire, moi, est-ce que vous êtes favorable à la transition écologique ?
Bien sûr.
Voilà. Est-ce que vous imaginez pas que le compteur Linky va vous permettre de mieux gérer, en fait, la consommation d'électricité que vous allez avoir et qu'on va avoir au niveau national ? C'est-à-dire que le compteur Linky, que vous voyez comme un monstre chez vous, d'abord, c'est pas un monstre, il émet plutôt moins d'ondes que votre compteur précédent. Il y a l'engagement, naturellement, par la loi, de respecter vos données personnelles, mais il permet de mettre en place des nouveaux services pour réduire votre consommation énergétique et donc de favoriser la transition écologique auquel, à mon avis, tous les Français sont attachés.
Sauf que, madame, vous n'en savez rien.
Et
il n'y a aucun recul pour l'émission d'ondes électromagnétiques du compteur liquide.
Mais
aucun
vous non plus.
Recul.
Mais vous non plus, vous n'en savez rien.
Mais alors voilà, exactement. C'est ça votre progrès, c'est que sans savoir, mais c'est exactement la question, sans savoir, on nous
mais
inflige
portable,
la 5G,
vous en...
le
Linky. Mais enlevez votre portable.
Ah mais je l'ai mis à l'abri dans mon sac, je le garde très rarement sur moi, je fais très attention. Mais non mais on peut pas, je vis pas dans une grotte, Pascal. Mais on ne peut pas nous infliger, mais vous savez que Linky ça terrorise les gens. Les gens ont refusé Linky.
Avec des propos pareils, je comprends.
Mais
surtout avec une personne, avec votre audience, je comprends que vous terrorisiez les gens. Mais c'est de la manipulation d'opinion, c'est tout.
Ah non, la manipulation, c'est nous infliger Linky sans avoir mesuré les conséquences. Pourquoi tous les gens ont résisté ? Et on nous dit aujourd'hui...
Mais moi, on m'a mis un compteur Linky et j'ai aucun souci dans ma maison.
Mais vous n'en savez rien. Ou peut-être que le fait d'être espionné ne vous dérange pas.
Mais
pourquoi
vous dites espionné ?
Vous ne pouvez pas dire que le compteur Linky espionne les gens. Mais bien sûr que non. Ça relève les consommations, mais après, elles sont anonymisées. Il y a un cadre légal, monsieur, vous pouvez pas... EDF respecte ce cadre légal.
Pourquoi on a fait ça espionner en plus ?
On a fait un cadre légal, parce que, justement, il y avait une levée de boucliers.
Non, c'est le cadre général de protection des données. C'est juste pas, ni plus ni moins, il n'y a pas eu un cadre spécifique pour Linky. C'est le cadre général qui fait qu'il y a une protection des données qui s'applique en France.
C'est pas un débat sur Linky, de toute façon. C'est un débat générique sur est-ce qu'il faut avoir peur du progrès.
Non.
Oui, mais ça, c'est un débat qui existe depuis la nuit des temps. Donc, vous auriez, lorsque l'avion est arrivé, vous auriez imaginé de ne pas prendre l'avion.
Mais là, vous êtes dans une course à la technologie qui n'est pas maîtrisée. La 5G, par exemple, on ne sait même pas le développement d'ondes, les antennes. On ne connaît pas les nuisances.
Il y a un rapport qui est sorti, ne serait-ce que la semaine dernière, d'plusieurs organismes qui disaient que dans la 5G, il n'y a aucun risque sanitaire parce qu'on est dans la continuité d'usage des radiofréquences qu'on utilise aujourd'hui. Il y a 28 000 études dans le monde qui montrent la non-nocivité des fréquences émises par les antennes. Je veux dire, arrêtons de manipuler l'information.
Combien vous avez dit 28 000 ?
28 000 dans le monde
entier.
Non
mais c'est formidable
ça. Attendez, je voudrais juste préciser sur la 5G, il y a une panique aujourd'hui sur la 5G.
Ah oui.
Vous utilisez votre portable.
Oui.
Vous trouvez quand même que c'est bien pratique de pouvoir avoir une consommation pour pouvoir trouver votre chemin, pour interroger Google et tout ça en toute permanence. Et bien, savez-vous que si on ne déploie pas la 5G en France, en 2022, dans les villes, il y aura saturation des réseaux. Tout
une pub.
Simplement.
Une pub et ce matin dans le surf, à juste titre d'ailleurs, Cyprien Sini faisait écouter Laurence Abeille, qui est une députée que vous connaissez peut-être, qui est une députée écologiste. Elle disait mot pour mot en 2012 sur la 4G la même chose qu'on dit aujourd'hui sur la 5G. Mmh. La 4G, vous l'utilisez.
Mais
vous n'en êtes pas mort. Donc, c'est toujours.
Vous voyez ce que je veux dire. Votre expression, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'en sois mort pour que vous ayez la preuve que ce soit nocif. Moi, je dis réagissons avant d'être mort.
Mais
c'est
avez,
ça qui nous offre.
Vous avez compris ce que je veux dire. On va l'écouter après la pub, Laurence Abeille, parce
bien.
Que ça date de 2012. Et c'est toujours les mêmes arguments. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
C'est un débat passionnant avec Laure de la Raudière, qui est députée à Gilles la droite constructive, qui tient tête à Gilles Verdez. Et croyez-moi, c'est pas toujours facile, parce qu'il est habitué au débat, Gilles Verdez. Alors, je voudrais qu'on écoute Laurence Abeille, parce que c'est intéressant, parce que c'est aussi un état d'esprit, forcément, parfois, l'écologie. Et ce qui est intéressant, c'est que Laurence Abeille, il y a 8 ans, elle dit exactement la même chose que ce qu'on dit aujourd'hui sur la 5G. Et à l'arrivée, il n'y a eu aucun souci. Écoutons.
Nous assistons au développement d'un nouveau réseau, le réseau de téléphonie mobile de 4e génération, sans qu'aucune étude d'impact environnemental ou sanitaire n'ait été menée. Je m'inquiète de cette course en avant vers un toujours plus de réseaux et de connexions, toujours plus de numérique.
En fait, c'est une idéologie, l'écologie. Ça avance parfois masqué. Et là, on le voit bien, c'est une volonté de freiner. Tout le monde n'est pas comme ça, bien évidemment. D'ailleurs, il ne faudrait pas dire l'écologie, il faudrait dire les Verts, ce qui est un peu différent, parce que tous les écologistes ne sont pas comme ça. Mais on le voit aussi avec Grégory Doucet, avec Pierre Urmic, il y a une volonté parfois politique, idéologique, de faire passer des messages.
C'est un peu la décroissance qui est derrière. Moi, ça m'inquiète parce que je suis persuadée qu'on ne réussira pas la transition écologique sans les progrès techniques et sans les progrès technologiques. Et en particulier... la 5G. Pourquoi ? Parce que la 5G, elle va permettre le déploiement d'objets connectés qui vont rendre tous les systèmes plus efficaces. Et quand vous êtes plus efficace, que vous allez réduire le nombre de déplacements, vous allez réduire la consommation des produits phytosanitaires, vous avez amélioré l'observation de la biodiversité, tout ça grâce à des objets connectés avec en plus des algorithmes d'intelligence artificielle. Et ça va rendre les choses plus efficientes, donc vous allez être dans la transition écologique. Donc je ne comprends pas du tout qu'on puisse défendre la transition écologique et être contre ces technologies qui vont la rendre possible.
Mais vous balayez les pensées des gens qui sont énormément à être rétifs au progrès. Pourquoi ?
Parce que vous voulez,
madame, vous expliquez ça avec brio, mais ce que vous voulez, c'est une France peuplée d'ondes et d'antennes relais. Qui, moi, me terrifie. Moi, je dis cultivons notre jardin. Vous appelez ça décroissance. Pensons à cultiver nos légumes, à cultiver nos jardins. Pensons au progrès des mentalités, pensons au progrès social, au bien-être. Je ne veux pas de cette technologie réductrice. Et moi, je vous dis, vous parlez d'études, rien ne prouve aujourd'hui que la 5G ne va pas infliger des dégâts dévastateurs, notamment à nos enfants, qui seront connectés de plus en plus tôt.
Rachid est là, puisque les auditeurs interviennent dans notre débat, et je le salue, Rachid, qui habite Versailles. Notre question, elle est plus générique que la 5G ou que Linky, bien sûr. Faut-il avoir peur du progrès, Rachid ? Et c'est vrai que le progrès, parfois, il bouscule. C'est-à-dire que lorsque la voiture est arrivée, le métier de cocher s'est arrêté. Mais c'est la vie, Rachid.
Je vais vous dire une chose. Tout à l'heure, vous disiez que, en reprenant les propos de Laurence Abeille, qu'il y avait le même débat il y a 10 ans sur la 4G, mais on pourrait reprendre d'autres débats. Il y a un siècle, la guerre des courants entre Edison et Westinghouse, où Edison électrocute un éléphant pour montrer les méfaits du courant alternatif au profit de sa technologie qui était le courant continu, et on voit bien qu'il y avait des gens qui étaient contre l'électricité. Aujourd'hui, sans l'électricité, il n'y aurait pas eu l'électrification des voies ferrées, on serait à la lampe à huile, on serait au charbon pour le train, etc. Sur les technologies, je comprends ce que dit M. Verdez, mais les technologies ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. Vous prenez une technologie, la radioactivité, les rayons X, toutes les technologies qui ont été issues des découvertes sur la mécanique quantique. Ça vous donne quoi ? Ça vous donne la bombe A, mais ça vous donne aussi la radiographie, le scanner, la propulsion, ça vous donne les missiles V2 des nazis, mais en même temps, ça vous donne les fusées qui vous permettent d'aller sur la Lune. Donc de dire on est contre la technologie parce que la technologie c'est bon ou mauvais, non. On ne fait pas le même usage de la technologie suivant qu'on est dans un pays démocratique, dans une dictature. Et j'ai même envie de dire, tout à l'heure, M. Verdez disait Linky m'espionne. On n'a pas besoin de Linky pour espionner M. Verdez. Il suffit de regarder les traces qu'il laisse sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Donc à un moment donné, j'ai envie de dire, Einstein aurait fait un autre usage d'un iPhone dans sa poche que peut le faire M. Verdez, par exemple. Les réseaux sociaux, avant d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, ils ont permis à des scientifiques, dans les années 80-90, de discuter entre eux alors que c'était pas possible. Ça a été une révolution dans les découvertes scientifiques, dans la collaboration entre scientifiques. Donc, les technologies, elles sont ni bonnes ni mauvaises.
Je comprends, Rachid.
C'est l'usage qu'on en fait.
Je comprends ce que vous voulez faire. Alors, ce qui est intéressant,
sur les usages et sur l'éthique. Mais ça, c'est un autre sujet.
Je comprends. Ce qui est intéressant dans ce que dit Madame de La Raudière, c'est que on a le sentiment aussi d'un changement de génération. Et que les plus jeunes, moi c'est ça qui m'étonne, sont parfois, n'ont pas la même mentalité, forcément, que des gens de 60 ou 70 ans, remettent en cause, pourquoi pas, parfois, ces formes de progrès, ou alors ont écouté ou sont influencés par le discours ambiant et on arrive à remettre en cause ce qui, me semble-t-il, dans l'histoire moderne, oui, a rarement existé, de remettre en cause le principe du progrès.
Mais je pense que c'est pas le même débat. C'est-à-dire, vous avez raison, je l'entends aussi, hein, et j'en suis consciente. Mais en revanche, ils mettent la techno comme étant les sources des maux de la société d'aujourd'hui. Et je ne pense pas que ça soit le cas. Je ne pense pas que ce soit la technologie qui est la source des maux que peuvent ressentir certains jeunes sur la société d'aujourd'hui. Je voudrais revenir sur un argument qu'a utilisé M. Verdez, qui, dans un débat, est l'argument qui tue. La 5G serait dangereuse pour les enfants. C'est ce que vous avez dit.
Personne ne sait qu'elle ne l'est pas.
Non, mais en disant qu'ils seraient plus connectés et tout ça. Mais attendez, il n'est pas question que les enfants utilisent plus la 5G que la 4G ou la 3G. Je veux dire, il y a des questions d'éducation des parents dans ce qu'ils fournissent à leurs enfants comme objet d'utilisation. Donc c'est plus... et vous disiez, finalement, il faudrait recommencer à cultiver son jardin. Mais bien évidemment. Mais en revanche, si vous voulez, les gens qui n'ont pas de couverture mobile aujourd'hui, quelquefois ils font leur jardin, mais ils aimeraient bien aussi avoir la 4G et la 5G. Donc c'est un peu méprisant vis-à-vis des territoires ruraux de dire finalement, on n'a pas besoin de tout ça, cultivons notre jardin, faisons nos légumes, revenons un peu en arrière. Mais non, les gens, ils veulent les deux.
Mais je voudrais qu'on ne reste pas que sur la 5G, parce qu'effectivement, c'est plus large, hein, notre débat. Est-ce qu'il faut avoir peur du progrès? On marque une page de pub, peut-être, avec Grégory Carannoni. Vous êtes pour ou contre le progrès, vous, monsieur Carannoni?
Moi, je rêve qu'il y ait des voitures volantes.
Oui, mais...
Ah, moi aussi.
Ce serait super. Hein.
Depuis que je suis jeune.
Je suis d'accord avec vous, mais comment dire, d'abord, le progrès... C'est un vain mot de vouloir l'arrêter, c'est inévitable, j'ai envie de vous dire. Et qu'à l'arrivée, quand même, on a un peu d'expérience. Tous les progrès, me semble-t-il, ont quand même été bénéfices pour les hommes.
Certains, incontestablement.
Quel est le progrès, par exemple, qui n'a pas été bénéfique
pour
l'être humain?
Par exemple, on en parlait en préambule, on pourrait beaucoup discuter du nucléaire. Et Rachid en discutait aussi.
Mais vous êtes sérieux?
Mais oui,
sérieux.
Écoutez, quand même...
Mais il n'y a aucun incident nucléaire en France depuis 1950.
J'ai travaillé des années, quand j'étais au Parisien, sur le lobby nucléaire. Peux vous dire que le lobby nucléaire en France, mais même vous, qui êtes un esprit indépendant, vous avez été influencé par le lobby nucléaire, visiblement.
L'électricité est moins chère. Elle est plus propre. Et il n'y a aucun incident depuis 1950 et on ferme une centrale à Fessenheim faire plaisir à Madame Merkel.
Mais aujourd'hui, les progressistes que j'ai en face de moi nous assènent des vérités comme ça, sans preuve.
Est-ce que vous connaissez un incident nucléaire en France depuis 1950?
Mais écoutez, il y a des fuites radioactives parfois qui sont avec des degrés. La communication me semble assez cloisonnée pour que nous n'ayons pas toujours l'explicitation.
Et de toute façon, tout système, évidemment, est à risque. Le charbon, il y a des coups de grisou avec des gens qui mouraient à la mine.
Mais c'est incontestable.
Donc, effectivement, c'est plutôt une énergie propre et plutôt une énergie moins chère.
Toutes les sources d'énergie.
14h19. Moi, je veux bien argument contre argumentation. Hein. Et puis, je veux bien changer d'avis. Ça ne me dérange pas.
Oh, ça vous arrive rarement.
14h19, à tout de suite la pub.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous sommes avec Laure de La Raudière, députée Agir la droite constructive, et notre ami Gilles Verdez. Faut-il avoir peur du progrès? Vous n'avez jamais peur du progrès, madame?
Non, j'ai pas peur du progrès. En fait, Agir la droite constructive, c'est la droite progressiste. Moi, je pense que le progrès, quand on regarde l'histoire, le progrès, c'est l'usage. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est l'usage de la techno. Et ce qu'on met en place, en fait, ça résout des problèmes de société. Ça peut permettre de lutter contre la pauvreté. Ça va faciliter la transition écologique. Donc non, j'ai pas peur du progrès.
Moi, j'ai peur du progrès, de ce progrès-là, de ce progrès frénétique, de cette accélération du progrès technologique qui laisse des tas de gens, je pense à nos seniors notamment, qui nous écoutent là. Ces seniors-là, eux, ils n'ont pas accès à cette technologie, la 5G. On va, donc, vous allez créer, en plus des dangers pour la santé, vous allez créer une France à deux vitesses entre les hyper connectés comme vous, madame, et les non connectés. Moi, je fais partie de la zone médiane où je me dis, j'ai besoin d'un peu de progrès, mais un progrès social, un progrès qui fait du bien.
Mais ne parlons pas que de la 5G, c'est plus large.
Mais est-ce que globalement, c'est parler de LinkedIn, de la 5G.
Oui, mais ce que je vous propose, c'est une réflexion globale. Est-ce que le progrès vous rend heureux? Est-ce que les gens en 2020 sont plus heureux qu'en 1940, qu'en 1850? Bah, ils souffrent moins quand même. Voilà, c'est aussi une comment dire, ils mangent mieux à leur faim aujourd'hui qu'ils ne mangeaient il y a un siècle et demi. Vous voyez, c'est aussi ça.
Le progrès, ça permet le maintien à domicile des personnes âgées. Je veux dire, on leur demande pas d'utiliser ces nouvelles technologies, mais en revanche, on peut avoir le système d'Amifil qui permet d'avoir un bouton et d'alerter des proches s'il y a un problème. Ça permet d'avoir des infirmières qui viennent à domicile avec une tablette pour pouvoir justement prévoir des soins beaucoup plus poussés en connexion avec un cabinet médical. Ça permet, mais l'innovation est sans limite et je trouve que elle permet en fait de régler des problèmes de société. C'est-à-dire que si on refuse le progrès, je trouve qu'on refuse de chercher à régler des problèmes de société.
Non mais là, vous avez habilement tous les deux détourné le débat en me faisant... Mais vous êtes sur la ligne du président de la République. Vous me faites passer comme tous les gens qui sont réfractaires à des zones de progrès pour des Amish qui vivent dans un monde qui refuse tout.
Ce n'est pas ma volonté du tout.
Merci madame.
Et c'est pas ce que j'ai dit non plus.
Merci Pascal. Mais je trouve que vous avez vraiment une sorte de condescendance avec les gens qui sont très mesurés. Et il y en a plein parce que ça crée quand même des zones de danger non maîtrisées. Je reviens, la 5G, le compteur Linky, la voiture connectée. Moi, je dis progrès, oui, si c'est pour un monde meilleur. Si c'est pour un monde dangereux...
Mais moi, je suis d'accord avec vous.
Mais oui, mais là,
moi,
excusez-moi. Nous sommes tous d'accord. Refusons cette frénésie, alors. Mais dites-le, madame, on la refuse.
Et je crois qu'il n'y a aucune condescendance dans mon ton et ma voix. Donc, vous m'attaquez en disant que je suis condescendante. Ça n'a pas été le cas. On débat et on a des positions différentes. Très bien. Et je trouve que certains arguments que vous utilisez sont un peu détournés et manipulent la peur qui existe aujourd'hui, c'est vrai. Parce que, en fait, on n'est pas capable aujourd'hui correctement de proposer, de décrire la société qui sera la société de demain. C'est une des difficultés, mais ça a été une difficulté de tout temps, en fait. Mais pour autant, faut-il refuser le progrès parce qu'on n'est pas exactement capable de décrire quelle est la société de demain? Je ne le pense pas. Je pense que le progrès permet de régler des problèmes de société.
C'est terminé. Il est 14h26. C'était notre duel philo du jour. Faut-il avoir peur du progrès? Il sera tranché dans une seconde avec l'ami Laurent Tessier. Restez avec nous puisqu'il va nous donner le verdict des auditeurs. Flavie Flamand sera là aussi dans une seconde. Je synthétiserai en disant peut-être que le progrès a du progrès à faire. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.